Chapitre 29. Donna n'avait jamais parlé d'Esther à personne. Il en parlait maintenant, assis près de Jacques Mestral, sur la pente d'un petit vallon creusé dans un pli de la montagne et qu'il venait de découvrir. Ce vallon avait été déboisé bien des années auparavant, à ce qu'on pouvait croire. De jeunes plants de trembles et de bouleaux y reparaissaient, les uns touffus à ras du sol, d'autres s'élançant déjà plus hardis. L'automne les avait touchés, leurs minces feuilles de rouge, de cuivre jaune translucide ou d'émail violet brillaient comme une joaillerie sur le fond vieux vert de l'herbe flétrie. Ou bien le jeune arbre se dressait comme une torche en feu traversée de soleil. Ou bien encore, il se penchait et tous ses sequins, taches d'or, gouttes de rubis, tremblaient à la fois. Dieu, que c'est joli, fit Jacques. Est-il rien de plus charmant qu'un bouleau en toute saison? Nous n'en avons pas à la Buissonne. Je regrette de ne pas connaître Esther. Crois-tu que je puisse garder quelque espoir? Demanda Donna qui devint rouge. Car il était nécessaire que son ami, pour le comprendre, le regardât au visage bien attentivement, et les yeux noirs scrutateurs augmentaient sa timidité sur le grand sujet. Quelque espoir, répéta Jacques. Quel âge a-t-elle? 19 ans, tu en as 20. Si, à cet âge, il n'y a pas d'espoir pour tout, partout, dans tous les domaines, quand veux-tu qu'il y en ait? Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. J'en garderai à ta place. J'en garderai envers et contre tous. Tu as bien compris où est l'obstacle? Demanda Donna avec effort. Certainement, pour ses parents surtout. Il ne faut pas leur en vouloir. Elle est leur fille unique et ils désirent pour elle ce qu'il y a de mieux au monde. Mais si elle t'aime, il y a dans l'amour une force latente qui agit d'elle-même, qui met en miettes les obstacles. Si elle m'aime, répéta Donna, elle m'aimait bien, voilà tout. Je t'offre un petit raisonnement à la façon de ma tante Inès, dit Jacques en riant. Tu gardes l'espoir, cela peut-il nuire? Non, au contraire, car l'espoir t'oriente. Tu abandonnes l'espoir, est-ce un gain pour ta vie? Non, c'est une perte. J'en conclus, garde l'espoir. Je voudrais être sûr que ce raisonnement est bon, fit Donna. Tu dis que l'espoir m'oriente. Je ne vois pas cela. Depuis 2 ans que je suis ici, je piétine sur place. Je n'étudie presque pas, j'oublie ce que je sais. Il ne faudrait pas t'éterniser dans cet asile de la paix et des vertus, dit Jacques. Non, mais tu comprends pourquoi j'y reste. Mon père y est bien. On ne le garderait pas sans toi? Pas une minute. Du reste, il n'y resterait pas. Sans l'échec du joli loulou aux cheveux de fille, nous serions déjà dégommés et mes 500 francs d'appointement resteraient dans la famille. La catastrophe est ajournée, mais elle m'attend l'année prochaine. Je donne des répétitions à Loulou, cruelle ironie, pour le rendre capable plus vite d'attraper ce diplôme avec lequel il me cassera les reins. Ah, je me demande ce qu'il adviendra alors de nous deux, mon pauvre père bronchiteux et moi sans place. Est-il possible, s'écria Jacques, que toi, jeune, fort, bien doué, tu te tourmentes à ce point de l'avenir? Est-ce que les choses n'ont pas tourné déjà 1000 fois mieux qu'on ne pouvait s'y attendre? Tu as fait des études, tu as réussi, tu gagnes ta vie. Ton père t'a rejoint et tu lui es utile sans qu'il te nuise. Est-ce toi qui aurais inventé cette combinaison? C'est vrai que je suis ingrat, murmura Donna. Je serais content, oui, je ne demanderais rien de plus si je pouvais oublier Esther. C'est à cause d'Esther, répéta-t-il plus haut en se tournant vers son ami. Esther n'est pas perdue, mais tu devrais étudier. 2 ans de retard, c'est déjà beaucoup. Emploie tes soirées mieux que tu ne l'as fait jusqu'ici. Je veux te voir professeur. Si Jacques n'était venu à près du camp que pour animer les ambitions de Donna et son courage et pour lui rouvrir un coin d'espérance, il n'aurait pas perdu son temps. Mais il fit plus, il insuffla les mêmes ambitions à Jules Brunel et après le départ de l'ami, ce fut le père qui ramassa le flambeau. Pauvre diable de récidiviste, vantard et glorieux malgré tout, il vit tout à coup son fils sur un pinacle et dans une auréole. Il s'illumina comme un satellite de cette lumière reflétée. Le soir, dans la petite chambre qu'il tenait en ordre de son mieux, il mettait sur la table la lampe et les livres et l'écritoire. Il attendait son fils, rencogné sur une chaise, entre le lit et l'armoire, et il tâchait de ne pas tousser. Il ne fumait plus par nécessité. L'âcre tabac lui enflammait les bronches, et ainsi, il n'avait plus rien que de regarder Donna, tout en taillant des pincettes à lessive pour la maison. Ce fut un bon hiver qu'ils passèrent tous deux. Donna put écrire à Jacques « Mes études m'intéressent, me passionnent par moments. Je te le dois. Mon père m'encourage. Tu en rirais si tu l'entendais me prédire des destinées. Je serai directeur de l'instruction publique sous peu. Saurais-tu quelque chose des J ? Je n'ai pas de nouvelles, mais je garde l'espoir. » Le printemps n'était pas une saison commode à l'asile. Une effervescence se manifestait chez les élèves après la réclusion de l'hiver. Nemo, le capitaine Nemo, devenait un meneur. Il avait 16 ans, l'année de sa libération approchait. Il demanda au père Martin de lui apprendre à traire. « Si je ne sais rien quand je sortirai de votre boîte, comment voulez-vous que je gagne ma vie » fit-il. « Ah, tu appelles l'asile une boîte, fichu vaurien. Et tu veux qu'on t'apprenne à traire ? Tu t'en passeras !» dit le père Martin, tout content de vexer Nemo. Nemo vint à Donna avec sa requête. « Voilà qu'on change l'équipe de l'étable. Je veux qu'on m'y mette. Je sais l'ouvrage du bois et du plantage. Ça ne me mènera pas loin. Tandis que si je sais bien traire, je trouverai une bonne place de vacher et puis je ficherai le camp en Amérique. Je veux qu'on me montre à traire. » « Ton désir est parfaitement raisonnable, » fit Donna. « Seulement, tu sais que le directeur n'aime pas que je m'occupe de l'organisation du travail. »« Vous me lâchez, alors ? Je n'ai plus personne !» fit Nemo d'un ton si plein de tristesse et de reproche que Donna en fut remuée. « Non, je ne te lâche pas. Je ferai mon possible, » dit-il. Et sans donner à sa bonne volonté le temps de se refroidir, il se dirigea vers le salon du directeur. Des voix s'y faisaient entendre. Il crut qu'on répondait au petit coup qu'il avait frappé. Il entra. Un jeune homme de haute taille et large en proportion occupait une large part de l'espace cubique de cette pièce minuscule et le directeur se tassait dans un fauteuil rouge. Il fit un geste en apercevant Donna. « Laissez-nous » cria-t-il. « Au contraire, restez !» fit l'étranger qui passa derrière Donna et appuya son dos contre la porte. « Je veux qu'on m'entende. Je veux des témoins. »« Qui êtes-vous » fit-il brusquement avec un geste du menton. « Je suis l'instituteur de cette maison, » répondit Donna fort intriguée. « Ah, très bien. Et moi, je suis un ancien élève. J'ai quitté Fichtoncamp il y a 5 années bien comptées. J'ai roulé ma bosse. Je n'ai pas mal tourné par merveille. Je ne savais rien, pas même traire le bétail, ce que j'aurais dû savoir pourtant. » Mais on peut rattraper le temps perdu des fois. Me voici, à 22 ans, premier valet de ferme chez un agronome en Saxe. Je rentre au pays pour un petit séjour et qu'est-ce que je trouve chez des amis ? Un rapport de l'asile qu'on me fait lire avec une magnifique lettre de moi, oui, de moi-même, signée, datée, tout le tremblement. Une prose baveuse qui m'apprend que j'ai infiniment de reconnaissance à mon cher directeur pour sa sollicitude éclairée et chrétienne, pour ses conseils qui me soutiennent dans la bonne route. Je lui dis que j'attribue uniquement ma chance actuelle à l'éducation et à l'instruction reçues dans le cher abri auquel je ne cesserai jamais, etc. Tenez, j'ai envie de cracher par terre. Expliquez-vous, fit-il d'un ton menaçant avec un geste dans la direction du fauteuil rouge. Cette violence, ces accusations anormales, fit M. Piqueret en se redressant un peu, m'étonne douloureusement. « Oui, vous avez réussi, ancien élève, vous avez réussi. Je l'ai appris indirectement, je m'en suis réjoui. Vous me ferez un crime de m'en être réjoui, d'avoir donné de vos nouvelles. »« Jamais je ne vous ai écrit, » affirma le jeune homme. « Jamais, pas une fois, un manque d'égard complet, anormal. Loin de vous en vouloir, j'ai donné de vos nouvelles au comité à la première occasion. » Je les ai données sous une forme fictive, sous la forme épistolaire. Je n'y vois aucun mal, conclut le directeur. J'en vois, moi. Tous les honnêtes gens appelleront cela une fraude, mais je vais porter l'affaire dans les journaux du district. Vous ne trouverez que la mauvaise presse pour accueillir vos diffamations, fit M. Piqueret avec une dignité ineffable. Quand le visiteur indigné fut parti, Donna resta sur la position qu'il estimait favorable à Nemo.